Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Alors aujourd'hui, je lance officiellement une nouvelle série d'épisodes. Une fois par mois, je vais vous parler d'un livre qui était important pour moi, une lecture qui a été impactante, qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait surtout évoluer dans mon parcours de photographe et celui d'entrepreneur. Alors ce sera pas forcément un livre sur la photo, mais c'est un livre qui va vous aider au quotidien dans votre pratique de photographe. Et d'ailleurs, le premier livre de cette série, c'est un livre qui est assez compliqué à classer, car il est question à l'intérieur de développement personnel, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est un bouquin de développement personnel, parce que c'est une grosse critique de ce que c'est le dev perso, de ce que c'est en termes de business aujourd'hui. Et vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Alors, l'auteur s'appelle Mark Manson, il a commencé par un blog sur lequel il distillait pas mal de conseils d'anti-développement personnel assez intéressant. Il a tout résumé dans son livre que je trouve passionnant, et le livre d'ailleurs a été adapté dans une sorte de documentaire qui est assez surprenant à regarder. C'est un format assez inhabituel, très sympa, et qui reprend les clés du bouquin. À l'intérieur, il y a 9 points clés qui sont abordés à la fois dans le livre et dans le documentaire. On va les voir ensemble parce que c'est une approche vraiment contre-intuitive à ce qu'on pourrait attendre d'un bouquin de dev perso et qui va parler de bonheur, comment être plus heureux. Et rien que le titre, l'art subtil de s'en foutre, en anglais, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, et d'ailleurs c'est un des premiers à utiliser le mot fuck dans un titre de bouquin, ce qui a fait assez polémique au début et qui a vu les ventes, qui a fait que les ventes se sont envolés, donc il y a plein de gens qui ont suivi, qui ont copié un peu le concept de mettre un gros mot en couverture. Et d'ailleurs, beaucoup de gens reprennent aussi son approche, donc c'est intéressant de venir à la source, et c'est l'objectif de cette petite série d'épisodes que je vous propose à partir d'aujourd'hui. Il y en aura donc un par mois, où on va essayer d'analyser des bouquins qui ne sont pas forcément très connus. Bon, celui-ci a été un best-seller et beaucoup de gens connaissent, mais surtout aux États-Unis, pas trop en France. C'est pas trop ça en France, le dev perso. Surtout venant des Américains, enfin avec des auteurs américains. Donc c'est important d'en parler. Le premier chapitre, le premier concept, il a appelé « Don't try », ne pas essayer, n'essaye pas. L'auteur illustre ce concept en se référant à Charles Bukowski, que vous connaissez peut-être un peu mieux que Mark Manson, qui est un écrivain qui a, pour le coup, embrassé tous ses défauts et a vécu sans poursuivre le succès traditionnel. Et l'idée, c'est que chercher constamment à être heureux, chercher constamment à réussir, selon les standards externes, on va en parler, bah, ça amène bien souvent à la frustration. Alors que vivre authentiquement, selon ses propres termes, bah, au final, ça apporte une paix intérieure beaucoup plus durable. Ça a été le cas pour Bukowski, quand il l'explique, et ça a été le cas de plein d'autres personnes, et c'est sûrement votre cas aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qui vous font réaliser, en écoutant ça, que parfois, c'est bien de ne pas écouter trop l'extérieur et pas chercher à être ce que les gens attendent de vous, ce que vos parents attendent de vous, ce que vos proches attendent de vous, ce que vos professeurs attendent de vous, et juste vivre en fonction de vos standards à vous. Et ça arrive au deuxième point, qui est que le bonheur est un problème. Happiness is a problem. Le bonheur, ça résulte de la résolution de problèmes significatifs. Et Manson suggère que les gens sont plus satisfait lorsqu'il travaille sur ses défis qui les passionnent, même si ces défis impliquent des difficultés et de la souffrance, que le résultat en tant que tel. Et ça, on s'en rend vite compte. Quand on arrive à atteindre un objectif qui nous a fait travailler et on a traversé beaucoup de problèmes, en fait, c'est pas le résultat qui nous plaît. C'est tout le parcours qu'il a fallu mettre en place pour y arriver. C'est encore plus vrai que, tout à l'heure, je vous parlais du fait que si on essaie de copier les autres, si on essaie de vivre selon les standards des autres, ça apporte de la frustration. C'est un peu ce qu'on voit avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec Instagram. Notamment Instagram, ça a été le réseau social qui a vraiment propulsé la photo sur le devant de la scène, mais aussi la vision du monde d'une partie de la population et qui a créé des standards en fait. C'est ça qui est assez dingue, c'est que selon Instagram et selon les réseaux sociaux, donc TikTok, etc., il faut avoir un corps d'une certaine façon, pas beaucoup de forme. Après, ça dépend les modes. À chaque fois, un coup c'est anorexique, un coup c'est pas le cas. Il faut être musclé, il faut voyager, il faut faire du business, il faut se prendre en photo devant des piscines, avec des cocktails, etc. Et les gens montrent le bonheur, qui, en tout cas le bonheur qu'ils vivent même pas forcément d'ailleurs. Ça qui est assez dingue, c'est que les gens qui montent du bonheur ne sont pas forcément heureux et ne sont pas en phase de bonheur. Ils essaient de se convaincre bien souvent. Et c'est en ça que la recherche de bonheur et le bonheur en soi, c'est ça le problème, concrètement. Là, on tombe dans la philosophie, mais on pourrait aller très loin, mais on va rester là. Troisième partie que je trouve excellente, vraiment excellente, qui est un peu le cœur du bouquin et de la philosophie de l'auteur, c'est que vous n'êtes pas spécial. You are not special. L'auteur démystifie le concept d'unicité absolue. Il appelle à reconnaître l'ordinaire comme une expérience humaine commune, c'est-à-dire ce qui nous lie tous, c'est le fait qu'on est tous ordinaire, il n'y a personne qui est extraordinaire. Il y a peut-être des gens qui sont meilleurs en maths, meilleurs en philo, meilleurs en sport, meilleurs en instruments de musique, etc. Mais globalement, il n'y a pas un individu qui sort du lot par rapport à tous les autres. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des défauts, tout le monde fait face à des défis. Et cette prise de conscience, elle peut libérer la pression qu'on a parfois de devoir se surpasser constamment. On le voit beaucoup en photo, on est toujours challengé et guidé, parfois drivé par une mauvaise jalousie de l'autre photographe, de se dire, ah putain, il fait vraiment des photos pas terribles, moi je suis meilleur que lui, pourquoi je suis pas publié, pourquoi j'ai pas autant de clients, etc. Et cette pression, ben, malheureusement, elle nous empêche de profiter des aspects simples de la vie. Le fait que voilà, on vit tout simplement, et vous allez voir, c'est un peu ce qui drive aussi l'écriture de ce bouquin, ce qui amène jusqu'à la fin avec la conclusion finale. D'ailleurs, la quatrième partie, qui s'appelle The Value of Suffering, donc la valeur de la souffrance, ben, il explique que la souffrance, elle est inévitable. Elle est inévitable pour tout le monde. Tout le monde va souffrir, tout le monde est amené à mourir un jour, à souffrir toute sa vie, avec un niveau plus ou moins grand, en fonction de là où vous avez eu la chance de naître et de grandir. Et ce que l'auteur explique et encourage à faire, c'est à réfléchir au type de souffrance que nous sommes prêts à endurer pour atteindre nos objectifs. Ce qui compte vraiment pour nous, c'est des gens qui ne veulent pas souffrir et du coup, qui n'auront pas de changement, qui ne seront pas capables d'évoluer. Et d'ailleurs, ce qu'il explique aussi un petit peu, c'est le fait que tout le monde veut changer, tout le monde veut changer de vie, tout le monde veut perdre du poids, tout le monde veut apprendre telle ou telle compétence, tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut faire des trucs comme ça. Tout le monde veut le résultat, mais tout le monde n'est pas prêt à accepter la souffrance qu'il y a et les problèmes qu'il y a sur le chemin. Tout le monde n'est pas prêt à endurer la même chose. Et lui, il va encore plus loin en expliquant que c'est con parce que c'est justement la souffrance et tous les problèmes qu'il y a sur le chemin, tous les obstacles qu'il y a sur le chemin, qui sont la vraie valeur du truc et qui font que c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, il pousse le truc, c'est un peu morbide, mais il pousse le truc avec une étude qui a été faite par un Polonais à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Un mec qui a mené une étude sociologique en posant des questions à des gens qui ont été des rescapés de la Deuxième Guerre mondiale, et notamment de la Shoah, des camps de concentration, etc. Et ce qui est assez incroyable, c'est que les résultats d'études montrent que la plupart des gens qui ont connu ça, qui ont vécu tous ces moments durs, considèrent que ça a été presque une chance pour eux. Parce que ça a redéfini qui ils étaient, ça a amené un changement dans leur vie, dans leur façon de voir le monde, etc. Qui fait que ça les a construits, qu'ils ont pu atteindre plus facilement le bonheur, en quelque sorte, parce que ils ont compris ces souffrances, ils ont réussi à se relever, etc. Et c'est le cinquième point, c'est que vous choisissez toujours. You are always choosing. Et ce point souligne l'importance de notre réaction face aux événements de la vie, face à la mort, face à la maladie, face au drame, aux tragédies. L'auteur, il insiste sur le fait que nous avons toujours le choix de comment nous interprétons et comment nous répondons aux circonstances. On ne peut pas, on n'a aucun moyen de pression, aucun moyen de négociation avec la vie, avec la maladie, avec tout genre de trucs. Le seul truc qu'on a, sur lequel on a un vrai contrôle, un réel putain de contrôle, son bouquin il donne envie d'utiliser des grossièretés, c'est assez marrant, c'est le contrôle qu'on a nous-mêmes sur nous-mêmes par rapport à ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment on va réagir. Une scène triste va faire pleurer, mais on décide de pleurer ou pas. On va décider d'être triste ou pas. La scène, c'est un fait. Et ça, c'est super important de le comprendre. On a un choix sur tout. Et d'ailleurs, on le voit dans les pays en guerre, dans les pays où il y a des catastrophes naturelles, dans les pays où il est vraiment difficile de vivre au quotidien en comparaison de ce que nous, occidentaux, européens, on a la chance de vivre dans des conditions vraiment largement acceptables comparées aux autres, sinon même excellentes. Ben, on voit que dans ces pays-là, où c'est compliqué, les gens continuent de vivre et continuent parfois souvent de sourire d'ailleurs. Je pense qu'on croisera plus facilement des gens souriants dans un endroit qui est régulièrement ravagé par des cyclones et des ouragans ou des catastrophes naturelles et la misère que dans le métro parisien où le niveau de vie il est incroyablement plus haut. Vous voyez l'idée? Donc, tout est une question de contrôle qu'on décide d'avoir sur notre vie et sur nos expériences de vie. Et comme le souligne l'auteur, globalement, on se trompe. On se trompe sur tout. Et donc c'est un titre de chapitre qui dit « You're wrong about everything », et moi aussi. « But so am I ». Et là, il explique un truc qui est important, qui est que une des clés pour réussir, et c'est d'ailleurs le premier chapitre du bouquin que j'ai écrit dernièrement, qui s'appelle « Qui ose gagne » sur le leadership, c'est la question de l'humilité. De l'humilité, notamment l'humilité intellectuelle, qui permet d'accepter que nos perspectives actuelles, ben, elles peuvent être fausses, elles peuvent être incomplètes, et c'est ça qui permet la croissance et l'apprentissage. Accepter de comprendre qu'on n'a pas toutes les clés, qu'on ne pense pas peut-être de la bonne façon, qu'on n'a pas le bon modèle mental, la bonne vision des choses. Accepter qu'on se trompe. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on comprend assez facilement quand on est gamin, parce que les adultes, souvent, pour nous dire, tu te trompes. D'ailleurs, on fait des contrôles pour vérifier, des évaluations pour vérifier si on ne se trompe pas. Et curieusement, quand on a 18 ans, quand on est adulte, ben, on nous fait un peu moins chier avec ça. Et pourtant, si on n'est plus capable de se remettre en question, de se demander si on a tort ou pas, ben, on va parfois faire d'énormes erreurs et parfois flinguer sa propre vie. Pourquoi? Et ne pas être heureux et sacrifier le peu de temps qu'on a sur Terre parce qu'on n'a pas, on n'a plus ce besoin de contrôle et de cette question d'humilité de se dire, parce que l'humilité ça vient de nous-mêmes, de se dire, est-ce que je suis pas en train de me planter? Et d'autant plus que l'échec, c'est le chemin. C'est le septième, je vous fais le bon condensé du bouquin, je vous encourage à le lire, hein, c'est pas parce que je vous fais un résumé qu'il faut pas le lire. Vraiment, en plus, il est super intéressant à lire. Même en anglais, il se lit assez facilement, je trouve, pour un bouquin en anglais. C'est un bon apprentissage, un bon exercice pour ceux qui veulent s'exercer à la lecture en anglais. Ce que je vous conseille de faire, parce qu'il y a beaucoup de livres extrêmement intéressants qui ne sont pas traduits en français, pas encore, qui ne seront peut-être jamais d'ailleurs, parce qu'ils ne marchent pas forcément. C'est pas des grands succès, parfois, les meilleurs livres. Donc, s'il n'a pas un succès économique, il ne sera pas traduit dans d'autres langues. Encore moins le français, et le français, c'est une toute petite langue sur Terre. Ok? Donc, petite parenthèse pour vous dire, lisez des bouquins en anglais, c'est vachement intéressant. En plus, c'est la vraie définition des termes, c'est pas des traductions parfois un peu chelous faites par des gens qui n'y connaissent rien, ou en tout cas qui n'ont pas la même vision que l'auteur. Et donc, du coup, la septième partie touche à l'échec, et l'échec, The failure is a way, dans lequel Manson voit l'échec non pas comme un obstacle, mais comme un élément essentiel du processus de réussite. Pour lui, les échecs, ça fournit les leçons les plus précieuses qui guident vers de meilleures tentatives et de meilleurs succès futurs. Et c'est exactement ça, en fait. Quand on est entrepreneur, quand on est photographe, on va échouer régulièrement, sinon toutes les semaines, tous les mois, tous les jours parfois, en testant de nouvelles choses. Mais en fait, on teste de nouvelles hypothèses. On teste quelque chose, on voit que ça fonctionne pas, bah ok, on a compris comment ça fonctionne pas, pour le coup. Et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. L'éducation, encore une fois, quand on est gamin, on comprend assez vite. Et dans certaines professions, je pense aux militaires, par exemple, dans l'armée, c'est la pédagogie tourne autour de ça. On fait échouer des gens. Parfois, il y a des punitions que certains considèrent comme étant des brimades, mais souvent, c'est juste des punitions intelligentes au niveau pédagogique parce que ça permet de mieux ancrer dans la tête les choses. Et c'est une pédagogie qui fonctionne bien, la pédagogie par l'échec, le fait de comprendre ses propres erreurs. Ou en tout cas les erreurs des autres, et d'avancer par rapport à ça. Huitième point, c'est l'importance de dire non. The importance of saying no. L'idée, c'est de se fixer des limites, et c'est crucial pour pouvoir se concentrer sur ce qui est réellement important. Et d'être capable de refuser ce qui ne s'aligne pas avec nos valeurs. Parce que, encore une fois, notre temps sur Terre est limité de dingue. On peut vivre encore pendant 10, 20, 30, 40 ans, peut-être 50 ans, mais on peut aussi s'arrêter de vivre dans 5 minutes, dans 10 minutes. Peut-être que là, à la fin, je pourrais peut-être ne pas terminer cet épisode de podcast et mourir avant la fin de cet épisode. Ce qui serait pas cool. Mais il y a quand même des cas où c'est techniquement possible et il suffit de faire une crise cardiaque ou autre chose, un AVC, c'est terminé en fait. La vie est extrêmement fragile, extrêmement solide aussi, mais extrêmement fragile. C'est incroyable à quel point notre temps est extrêmement limité, on ne s'en rend pas trop compte et cet épisode, il est là pour vous prendre, faire prendre conscience de ça. L'idée, c'est pas de vous rendre triste, de vous apeurer, de vous dégoûter. L'idée, c'est de vous motiver. Et c'est là le but de ce bouquin aussi. Parce que ça termine comme ça termine sur le fait que, et le titre, je vous cite, c'est And then you die. Et puis, vous mourrez. Et c'est un peu la conclusion et en même temps tout le chemin vers lequel l'auteur veut nous amener sur le concept de la mortalité. Et le fait de comprendre et bien s'en rappeler et même devoir se le rappeler tous les jours que, ben, on va mourir. On va tous mourir. C'est ce qui unit tous les humains. Et ce qui fait que la vie a un sens et que la vie est incroyable et intéressante. C'est qu'on finit par mourir. Et on ne sait même pas quand on va mourir. Et savoir qu'on va mourir et ne pas savoir comment ni quand permet d'être motivé à vivre, à survivre, à être motivé de vivre selon nos principes et de chercher un sens à ce qu'on fait au-delà des plaisirs éphémères, des succès matériels, le fait d'acheter une bagnole, de vouloir gagner de l'argent, de vouloir coucher avec des gens. Voilà, au-delà de tout ça, au-delà du plaisir éphémère, du plaisir immédiat, qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous? Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire dans sa vie? Ça fait réfléchir, hein? Ça fait sacrément réfléchir. Et je trouve que c'est super important de lire des bouquins comme ça de temps en temps. Ou en tout cas de regarder des documentaires ou de lire, de s'inspirer, d'écouter des penseurs comme ça. Si vous voulez d'autres auteurs, on parlera de ces bouquins dans des prochains épisodes. Il y a aussi Ryan Holiday, qui a un petit peu remis au goût du jour le stoïcisme, la pensée stoïque. Sur YouTube et dans des bouquins, il écrit beaucoup de bouquins, notamment L'obstacle et le chemin, L'ego et l'ennemi. On en parlera dans les prochains, sans trop spoiler, il y en aura un dont on parlera dans quelques épisodes, dans quelques semaines. Et lui, par exemple, un de ses credos, c'est la phrase romaine, ça date de l'époque antique. Je crois que c'était Marc Aurèle qui avait écrit ça en premier, qui était Memento Mori. Memento Mori, qui en latin veut dire souviens-toi que tu vas mourir. Et Ryan Holiday, pour le coup, il a poussé le truc en écrivant des bouquins dessus, mais aussi en faisant un peu de merchandising. Il a même créé, il a fait frapper un coin, une pièce, sur lequel il y a un crâne, donc ça ressemble un peu à une vieille pièce antique, comme un vieux sesterce, avec un crâne et avec écrit Memento Mori dessus. Et il explique fièrement à chaque fois qu'il a cette pièce toujours dans sa poche tous les jours pour se rappeler. Cette réalité qui va mourir et qu'il faut faire un maximum de choses et pas se laisser guider comme telle une feuille morte dans le vent par ce que les gens attendent de vous, ce qu'ils veulent que vous fassiez ou ce qu'ils pensent de vous. Faut être maître de son destin le plus possible parce que, comme on l'a dit, vous pouvez en fait être le décideur. Même si vous ne savez pas combien de temps il vous reste, vous savez comment vous allez pouvoir réagir, comment vous allez devoir réagir à certaines choses. Vous pouvez décider d'être triste, comme vous pouvez décider d'être heureux. Et d'ailleurs, dans le bouquin, il parle aussi d'une anecdote où il perd un de ses meilleurs amis, très jeune, un gamin de 20-30 ans qui meurt à côté de lui. Et à ce moment-là, ça le fait. Il rêve de lui dans la nuit, qui lui dit pourquoi t'es triste? C'est con en fait. Pourquoi tu décides d'être malheureux? Pourquoi tu décides d'être fataliste? Il n'y a aucune raison. Et du coup, tu peux faire exactement l'inverse. Et c'est extrêmement intéressant. Alors, dans notre société, c'est compliqué parce qu'on pousse à l'empathie, à ce genre de choses. Et c'est important, l'empathie, c'est important d'être bienveillant, c'est important de bien communiquer avec les gens. Mais parfois, c'est bien aussi de comprendre la réalité telle qu'elle est, de faire face à la réalité. Et on en parlera dans les prochains épisodes. Je vous promets une petite réflexion assez intéressante qui va vous faire rire dans quelques semaines. Donc abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et pour venir sur Manson, sur son bouquin, ben, le style est vachement bien parce que c'est un langage direct, sans détour, pour transmettre un message. Ça, c'est une façon de réfléchir aussi, de mener une réflexion sur la culture moderne de positivité toxique qui nous éloigne des réalités fondamentales de la vie, je viens de le dire un peu. Et il choisit délibérément. Enfin, le problème, c'est que ces réalités choisissent délibérément sur quoi nous concentrons notre attention et nos efforts. Et nous pouvons trouver un sens et du bonheur dans nos vies, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les souffrances, qui sont pour le coup inévitables. Donc, tout ce discours, il est parfois dur à entendre, mais il est tellement nécessaire. Et moi, je le vois dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle, parce que ça fait maintenant depuis 2015-2016 que je donne des cours, que ce soit dans des universités, des écoles de photo, ou enfin de journalisme, parce que c'est à Sciences Po Toulouse en journalisme, et surtout en ligne avec des masterclass, des trucs en présentiel, etc. Et puis j'ai monté une structure dans laquelle je donne des cours toutes les semaines. Et je le vois que quand je fais des feedbacks, pas agressifs, mais en tout cas cash, où je dis clairement ce que je pense, quand quelque chose n'est pas bon, ben je dis voilà, franchement, c'est pas bon, c'est pas que j'aime pas ou que ça me parle pas, c'est que techniquement, c'est pas bon. Il y a deux sortes de réactions. Il y a les gens qui vont être braqués et qui vont m'en vouloir ou qui vont s'énerver ou qui vont partir. Et ça arrive. Pas, heureusement, pas tout le temps, mais ça arrive. Mais surtout, la deuxième façon de réagir à ça, c'est de dire, putain, merci parce que j'ai un avis constructif et t'es pas là pour juste me dire c'est bien, un peu comme ma mère pourrait me le dire, quoi. Je suis pas votre mère. Et j'ai aucun intérêt à vous dire c'est génial si c'est pas le cas. Et quelque part, on se rend compte que ça se transpose très bien dans notre vie personnelle et au final, nos vrais amis, nos vrais proches, les gens qu'on apprécie vraiment réellement, en qui on a confiance, c'est des gens qui vont nous dire ce qu'on doit entendre et pas ce qu'on veut entendre. C'est bien des fois d'entendre quelque chose qu'on a envie, mais si on veut progresser, si on veut s'améliorer dans la vie, on a besoin d'entendre de vrais avis, des choses, on a besoin de la réalité. On doit se regarder dans le miroir et pas un miroir déformant. Alors bien sûr, faut encore une fois faire preuve d'empathie, mais notre temps, il est limité sur Terre. On peut mourir dans 10, 20, 30 ans comme dans 5 ou 10 minutes. On n'a pas le temps pour l'hypocrisie, on n'a pas le temps pour les faux-semblants. On doit s'entourer tous de gens vrais, honnêtes. On doit faire face à la réalité et non pas, et ça c'est le point le plus important, sur... On ne doit pas faire face à... Enfin, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'interprétation qu'on fait de la réalité. Parce qu'on est tous humains, on est tous des êtres de passion, d'émotion, et on ne voit jamais à la réalité telle qu'elle est, on voit la réalité telle qu'on l'interprète au prisme de nos biais cognitifs, de notre expérience, de nos envies, de nos espoirs. Bref, je vous conseille la lecture de ce bouquin, et si ce nouveau format vous plaît de résumé de livre, bah faites-le-moi savoir en commentaire sur YouTube ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez. D'ailleurs, en fonction de la plateforme que vous utilisez, si c'est Spotify, Apple, etc., allez noter le podcast. Vous pouvez mettre 5 étoiles si ça vous plaît. Mettez un petit commentaire, ça prend 1 ou 2 minutes à faire, vraiment. Et moi, ça m'aide énormément pour le référencement. Ça fait monter le podcast, ça permet de toucher beaucoup plus de gens, d'aider plus de gens. Et voilà, je fais pas ça tout seul dans mon coin. Je passe du temps pour partager des choses et j'aimerais bien que ça touche plus de gens. Parce que ça, pour le coup, c'est un de mes buts dans la vie. C'est quelque chose que je veux laisser derrière moi. Laisser du partage de compétences, de connaissances, de réflexions, pour essayer de faire grandir une profession que j'aime fondamentalement, qui est le photojournalisme, la photographie de presse. Et je pense que depuis 2018 et le lancement de ce podcast, ça a pas mal aidé beaucoup de gens à se lancer. Donc, aidez-moi. Aidez-moi en utilisant 2 minutes de votre temps pour noter cet épisode, enfin partager cet épisode, noter ce podcast et aider à faire connaître ce format. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une interview de photographe qui devrait, je pense, vous plaire beaucoup. Merci pour votre écoute.